Europe 1,
11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait tous les jours sur Europe 1, je vous emmène en voyage, tous les jours une destination différente, et aujourd'hui un pays vers lequel on a tous pensé voyager un jour. C'est à la fois proche et lointain, c'est voisin, mais si différent. C'est juste de l'autre côté de la Méditerranée. On va voyager aujourd'hui vers la belle Tunisie. Alors pour l'instant, on va voyager plutôt grâce à l'imaginaire, car hélas, l'épidémie de Covid là-bas est assez sévère. Mais on pense déjà à l'après, on commence à rêver. Le voyage commence déjà comme ça par le rêve, toujours. Et pour m'accompagner dans ce nouveau voyage, deux larrons. Deux baroudeurs.
Deux larrons en foire.
Deux baroudeurs magnifiques. Nathalie Corré, qui est
présente.
Qui a un sens de la danse.
Orientale, vous pouvez le dire,
danse
oui.
Danse du ventre.
Non, dites pas la danse du ventre. Dites la danse orientale, c'est un art.
C'est vrai, vous avez appris.
Oui, j'ai appris. Oui, j'ai appris. Je vous ferai des petites danses.
Non, c'est vrai. Nathalie Corré, si je vous parle Tunisie, quelle petite lumière s'allume en vous ?
Plein de lumière, parce que j'ai mille fois pensé m'installer. Ça me correspond à mon rythme, figurez-vous. Moi,
vous vouliez vous installer
oui.
en Tunisie ?
Alors moi, j'ai rêvé de m'installer à Mahdia, par exemple.
Pourquoi ?
Mahdia, pour moi, c'est une des plus belles plages de Tunisie. Moi, j'aime Tabarka, les chênes lièges et le festival
beau,
de jazz, ouais. J'adore. Et puis, j'aime Bizerte et ses langoustes, évidemment.
Bien sûr.
Mais plein de fois j'ai voulu, mais je m'imaginais qu'un petit thé, des petits pignons, de l'huile d'olive avec du pain, vous voyez, et puis du oud et puis de la mer devant, voilà.
Et ça, vous avez renoncé ?
Pour l'instant, ça peut revenir. On n'est jamais à l'abri, ça peut nous reprendre.
Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors la Tunisie, en quelques mots pour
vous. Pour moi, c'est des images d'une grande bleue scintillante, des premières d'une ocre du Sahara. Un rêve absolu. Une île idéale pour le farniente, Djerbaladous, vous l'avez dit. Des villes au riche passé, donc une très forte culture ancestrale. Et des souks colorés dans lesquels on s'initie au lard du marchandage. On va en parler tout à l'heure.
On va en parler parce que c'est un art délicat.
Oui.
Et puis
on peut
ligne,
laisser des plumes, c'est vrai.
On peut laisser quelques plumes, mais ça fait partie du plaisir.
Exactement.
En ligne, dans quelques instants avec nous, Samia Orosman, qui est humoriste franco-tunisienne. En 2017, le magazine Vanity Fair l'a quand même classée parmi les 50 personnalités françaises les plus influentes dans le monde.
Nous dites donc.
Qui est quand même pas rien. Elle nous racontera avec toute sa bonne humeur et vous allez voir son franc-parler. Elle nous racontera sa Tunisie. La Tunisie, la mer, les maisons bleues et blanches, les souks, le désert. C'est parti maintenant.
Et si on partait ? Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
L'un de mes endroits préférés en Tunisie, c'est au sud, dans la région de Tozeur. Une ville couleur sable, envoûtante, posée aux portes du Sahara. Lors d'un tournage des Trains pas comme les autres, je me baladais sur le marché de Tozeur et je vois un vendeur de drôles de pierres. Il avait sur un tréteau des cailloux comme calcinés, lisses et un peu luisants. Visiblement, il en était très fier et il m'explique que ces pierres venaient de l'espace, que c'était des météorites et qu'il était un chasseur de météorites. Donc évidemment, je lui demande s'il peut m'emmener un jour dans une de ses expéditions. Et je le retrouve un matin très très tôt dans le désert. Paysage de sable, de rocailles, un peu de vent, quasiment rien pour se mettre à l'ombre, pas de végétation. Et il y a un truc qui m'étonne, c'est que il est là mais il n'a quasiment aucun matériel sur lui. Il est là, les mains dans les poches. Et il commence à chercher, avec les yeux, comme ça, au milieu de l'immensité. Et il me dit « Oh, t'inquiète, regarde comme on est bien. Regarde comme on est tranquille ici. Il fait frais, c'est la liberté. Une météorite, c'est un cadeau qui vient avec le temps. » Donc, on cherche, enfin surtout lui, il cherchait encore. Et c'est vrai que plus on avance, plus le paysage est impressionnant. On approche d'un lac salé. En fait, un lac dont il ne reste que le sel sur le sol, car il s'est asséché durant l'été. Il n'y a donc que le vent, les vastes taches de sel blanc sur le sol, des mirages à l'horizon. Et j'ai vraiment l'impression parfois qu'il y a de l'eau, que le lac est toujours là, mais non, c'est bien un mirage. On avance prudemment parce que la zone est pleine de sable mouvant. Et tout à coup, mon chasseur de météorites ramasse un caillou. Il a les yeux qui s'illuminent et il sort quand même de sa poche, j'avais pas vu, un tout petit haut-parleur qu'il avait sans doute démonté dans un vieux poste de radio. Et il passe le haut-parleur sur la pierre en tendant l'oreille. Et il espère un crépitement du haut-parleur. Mais rien. Rien ne se produit. Et il me dit « Oh, tu sais, les météorites sont magnétiques. On aurait dû entendre un petit cric-cric. » Mais là, rien du tout. Je suis un peu sceptique sur la méthode, mais bon, ça n'a pas l'air de l'ennuyer plus que ça. La balade va continuer. Des heures. La chaleur monte. Le soleil tape. Il cherche. Tout à coup apparaissent quelques palmiers avec une cascade entre deux rochers. C'est une oasis, c'est une bouffée de fraîcheur. On y fait une petite sieste. On cherche toujours. Le soir, un gros disque orangé du soleil se pose sur le désert. Nous sommes entièrement seuls. Le spectacle est splendide. Et là, il me dit « Tu vois comme c'est magnifique. C'est ça le cadeau. Ça arrive comme ça tout d'un coup, comme une météorite. C'est ma météorite à moi. Je te l'offre. » Et je ne saurais jamais si les pierres qu'il vendait étaient des vraies météorites. Mais sans le savoir, j'étais tombé sur un rêveur, un poète du désert. Et dans mes souvenirs, j'ai ramené son très très beau cadeau.
Europe 1,
11h midi, et si on partait ? Philippe Googler.
Ça se passait dans le décor du sud tunisien. C'est magnifique. J'adore cette région.
Instant magique.
C'est ma région préférée de Tunisie, là au sud de Tozeur. Si vous pouvez y aller un jour, franchement, vous aurez les yeux écarquillés. Vous aurez votre météorite à vous.
Et l'âme qui s'envole aussi, justement. L'âme. L'envie, oui, mais c'est très poétique. Vous l'avez très bien dit, Philippe.
Ouais, c'est ça. Encore plus de Tunisie, dans un tout petit instant, sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 entre 11h et midi. Et nous sommes aujourd'hui avec mes deux compagnons de voyage, Nathalie Corré et Jean-Bernard Carrier, en Tunisie et surtout en ligne avec Samia Orozmane, qui est humoriste franco-tunisienne, qui est en ce moment les doigts de pied en éventail à Djerba, la petite Vénarde. Bonjour Samia.
Bonjour.
Comment est le temps à Djerba ?
Magnifique. Il fait environ 35 degrés, un soleil sublime, on est bien.
Très bien. Ben vous voyez, à Paris, c'est exactement l'inverse.
Courage.
Qu'est-ce que vous voyez ? Quel est le paysage ? Ça ressemble à quoi ?
Alors, il fait un très beau soleil, il y a une petite brise marine parce qu'on est entouré d'eau et on entend le chant des grillons.
Ouais.
Et en fait, autour de moi, c'est surtout des maisons pas terminées parce que ici, on commence à construire au fur et à mesure de nos moyens.
Ouais.
Voilà ce qui se passe autour de nous. C'est surtout beaucoup de briques rouges. Les gens ne font pas de crédit généralement. Ils construisent en fonction de ce qu'ils ont dans la poche. Et c'est ce qui les encourage à continuer la construction.
D'accord.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup d'oliviers, quelques palmiers. Et c'est surtout le calme absolu, en fait.
Donc vous commencez en nous faisant rêver pour finir par nous dire que vous êtes au milieu d'un chantier.
De construction.
Moi, c'est là où je suis, effectivement. Mais il y a des plages sublimes autour. Et puis surtout, le charme de Djerba, c'est les menzels. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des villages en fait, traditionnels qui sont un peu comme des forteresses et où on vit en famille. C'est surtout des... On appelle ça des tribus. Et donc, chaque famille a son propre village. Et il y a une réelle vie en communauté, les gens vivent ensemble, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité, en plus des commérages qu'il peut y avoir dans les villages.
Mais, oui. Mais vous voulez dire que c'est une famille par village ?
Exactement.
Ah, c'est dingue.
En fait, c'est des sociétés patriarcales. Par exemple, moi, mon nom de jeune fille, c'est Benta Mansour. Eh bien, tous les gens qui m'entourent sont des Benta Mansour. Donc, ça a beaucoup d'avantages, comme je vous disais, parce que pendant les fêtes, on se retrouve tous ensemble et tout le monde est là pour aider. Donc, quand vous avez un mariage ou une naissance, tout le monde est là pour filer un coup de pouce. Pour les décès aussi, tout le monde est là. Il y a une vraie solidarité. En revanche, bah, tout le monde est au courant de votre vie avant vous.
Eh ben oui.
Et des fois, on vient vous raconter ce que vous avez fait alors que vous n'étiez pas au courant.
Eh ben oui. Comment vous faites quand vous voulez avoir un peu d'une petite vie un petit peu parallèle, un peu personnelle? Comment on se débrouille?
Eh ben dans ces cas-là, on loue loin du village. Comme ça, on sait qu'on peut être tranquille. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous, on a loué une petite maison avec piscine dans la région de Midoun. En fait, c'est à côté de toute la zone hôtelière.
Ouais.
Et alors que moi, mon papa a une maison en plein cœur de l'île. Donc, quand on a envie de dépaysement et du lien familial et de se retrouver dans une ambiance un peu plus traditionnelle, bah, on va au fin fond du village où le Wi-Fi, la connexion est un peu compliquée. En fait, papa a une maison à l'ancienne, un houche, on appelle ça un houche. Au centre, il y a une cour et on dort à la belle étoile.
Ah.
Et donc, moi, j'aime dormir dans la cour et puis on voit les milliards d'étoiles parce que comme on est au fin fond d'un village où il n'y a pas beaucoup d'électricité autour, bah, du coup, c'est le dormir là-bas, c'est juste exceptionnel.
Y a pas de pollution.
Et puis,
lumineuse.
Bah, la journée, je viens squatter ici dans la maison avec piscine qu'on a louée. Et là, on a un petit peu plus de... comment dire, d'intimité.
Jean-Bernard, vous connaissez Djerba?
Alors j'ai surtout des souvenirs de plages magnifiques, de petites dégustations sur la plage, justement. Oui, pour moi, c'est le farniente, le côté Djerba.
Mais malheureusement, les gens ne connaissent que le côté farniente.
Oui, c'est vrai,
je ne connais que
cette... Oui, c'est vrai, c'est un peu le cliché sur Djerba, et je suis pour une fois pas allé au-delà du cliché, c'est vrai.
En fait, toute la côte est très touristique, donc il y a beaucoup d'hôtels et effectivement les plages sont magnifiques. En revanche, quand on entre à l'intérieur des terres, il y a plein de belles choses à découvrir.
Ouais.
Par exemple, Djerba abrite la plus vieille synagogue du monde arabe.
Ouais, oui.
Et elle s'appelle Ghariba. Il y a un pèlerinage qui se fait tous les mois de mai à la Ghariba. Et en fait, juifs et musulmans cohabitent depuis toujours. Et ça, c'est magnifique, en fait, d'aller découvrir ce petit village qui s'appelle Eliyad, où il y a la plus vieille synagogue du monde arabe, parce que dans ce village-là, il y a eu aussi une belle action qui a été menée pour relancer un peu le tourisme après la révolution. C'est un type qui s'appelle Mehdi Benchir, qui a fait venir des graffeurs du monde entier pour venir graffer sur les murs de cette petite ville. Et du coup, tous les gens qui suivent ces graffeurs-là à travers le monde sont venus découvrir ce petit village.
Et c'est vrai, c'est du street art, hein. C'est vraiment, c'est pas du petit graffiti, c'est magnifique. Hein.
C'est ça, c'est du street art. Il y a El Cid et plein d'autres grands graffeurs qui sont venus. Et ça a donné un autre souffle en fait à l'île.
Alors,
les gens sont venus découvrir d'une autre manière.
Djerba est située donc plutôt au sud de la Tunisie et c'est une île dont l'histoire, dont l'origine a une belle légende. Vous pouvez nous la raconter ?
Oui, alors on dit que Ulysse de l'Odyssée est venu à Djerba et qu'il a eu beaucoup de mal à la quitter parce qu'il est tombé amoureux de l'île. On dit qu'il aurait mangé un fruit qu'on appelait le lotos et donc du coup les gens d'ici on les appelle les lotophages depuis l'époque.
Les lotophages.
D'Ulysse, les lotophages.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est les mangeurs de fruits et de légumes, de fruits. Et en fait. On dit qu'il a eu beaucoup de mal à quitter l'île parce qu'il est tombé amoureux depuis qu'il a mangé ce fruit. Donc,
ah bon ?
Sur l'île, on a beaucoup de coins qui s'appellent, qui font référence à Ulysse, à son épopée, au lotophage, etc.
Mais parce que j'ai pas compris quel fruit c'était, quel fruit rend amoureux, parce que ça nous intéresse tous, évidemment.
On appelle ça le lotos. Moi, c'est ce que j'ai pu lire. Ça s'appelait le lotos et les gens qui tombent amoureux de ce fruit, on les a appelés les lotophages. Et donc Ulysse
est venu
rester
bloqué au pays
des lotophages.
On connaît pas les lotos. Qu'est-ce que c'est comme fruit ?
C'est pour ça que vous n'êtes pas amoureux.
C'est un vieux fruit, c'est un fruit qui existe encore ou c'est juste légendaire?
Je ne pense pas, je pense que c'est une légende. C'est représenté un peu comme une fleur.
Ouais.
Ça ressemble un peu à une tulipe avec des pistils qui en sortent. Moi, c'est les dessins que j'ai vus ici sur l'île. Depuis petite, je me souviens juste de ça. Après, je pense que c'est juste une légende.
Oui, alors, c'est qu'une légende, Philippe.
Bon, faut pas trop creuser, mais c'est vrai, comme toutes les légendes. Et là, une question évidemment que j'ai sur le bout des lèvres depuis le début, c'est que la Tunisie est hélas... en ce moment victime d'une très forte poussée de Covid. J'imagine que l'ambiance à Djerba, ça doit être un peu étrange en ce moment.
Oui, en fait, c'est particulièrement vite cette année. Moi qui viens plusieurs fois dans l'année, j'ai l'impression qu'on se retrouve hors saison.
Ouais. Quel est le caractère des gens de Djerba? Est-ce qu'il y a une âme particulière liée à cette île?
Ah oui, alors déjà, Djerba, c'est l'ouverture d'esprit. On appelle terre de tolérance et de paix, parce que tout le monde cohabite. En revanche, on a une réputation qui n'est pas très bonne au reste de la Tunisie, c'est qu'on est considéré comme des radins.
Ah bon?
Ouais. Mais le gère bien, c'est celui qui gère bien. Alors les autres sont jaloux, parce que nous, on arrive à gérer, c'est ça le problème. En fait, les gère bien sont principalement des épiciers. À travers le monde, ils sont connus pour ça, c'est des commerçants. Et donc, c'est des gens qui savent en fait gérer leurs biens et faire proliférer un petit peu leur argent. Et c'est des gens qui travaillent énormément, qui se lèvent très tôt le matin, qui finissent tard le soir, comme le petit épicier du coin.
Mais en vrai, dites-nous,
en France,
vous êtes radin ou pas?
Les épiciers que vous avez pu rencontrer venaient sûrement de Djerba.
Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais en vrai, vous êtes radin ou pas?
Pas du tout. On est juste. On n'est pas dépensier. On n'aime pas dépenser dans quelque chose d'inutile. On accueille très très bien les gens, mais aller investir dans du bling bling, strass et paillettes et dans des grosses voitures juste pour montrer qu'on a de l'argent, ça fait pas partie de notre façon de vivre. Bon. Les maisons à Djerba de dehors sont très très simples, très discrètes. Mais quand vous entrez, parfois vous découvrez des châteaux à l'intérieur.
Restez avec nous, Samia. On continue à explorer Djerba et la Tunisie avec vous dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi, et si on partait?
Philippe Googler.
Sommes en Tunisie avec Nathalie Corré qui danse comme une folle.
Ah mais moi, dès que j'entends, ça y est, hop, c'est parti.
Avec Jean-Bernard Carrier.
Moi, je ne danse pas, mais j'écoute.
Ah ouais.
Attentivement.
Et surtout avec Samia Horsman qui est humoriste, qui est à l'origine du festival de l'île du rire à Djerba. Samia, vous êtes en ligne avec nous depuis Djerba. Vous avez toujours fait rire. Comment ça réagissait autour de vous, dans votre famille, à Djerba, quand vous faisiez des blagues, quand vous étiez petite?
En fait, dans les mariages, les hommes et les femmes sont séparés. Les femmes sont à l'intérieur de la maison, dans la cour, et les hommes sont souvent à l'extérieur. Et donc moi, je me retrouvais au milieu de toutes ces petites vieilles, et je m'amusais à les imiter les unes les autres, ou à les faire rire avec mes anecdotes du quotidien. Et du coup, elles passaient leur temps à rire, en tous les cas, devant moi. Et dès que je partais, ils disaient « La pauvre, elle ne va jamais trouver un mari, Mskema, elle est trop légère.
» Et alors, est-ce que vous avez trouvé un mari?
Bien sûr, mais il n'était pas de Djerbien, c'est pour ça. Parce que, en fait, il faut savoir que les Djerbiens se marient généralement qu'entre eux. En fait, avec un coup de téléphone, vous avez le FBI de Djerba qui peut vous donner toute la lignée du garçon que vous avez rencontré.
Ouais.
Donc moi, mes parents, ils voulaient un Tunisien de Djerba, si possible, de la famille. Comme ça, on fait des enfants consanguins, c'est génial.
Bah, oui, c'est pas terrible.
Du coup, moi, je suis allée chercher un Martiniquais. Donc c'était rien à voir. Il venait d'une île, mais c'était pas la bonne.
Comment est-ce qu'il a été reçu?
Fouh, ça a été très dur. Ma mère, elle m'a dit « Un kahelouche, un noir. Mais il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu ramènes un noir, c'est ça? On t'a fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire du théâtre, et c'est comme ça, tu dis merci. Tu veux ta mère, elle meurt, c'est ça? Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non? Ah, je vais mourir. » Et au final, après 4 ans de galère, elle a fini par accepter, ouais. Et ça a été son gendre préféré parmi les 5 qu'elle avait.
Ah, super. Et alors, on n'a pas parlé de la gastronomie à Djerba. Qu'est-ce qu'on mange?
Oh, énormément de choses. Moi, un de mes plats préférés, c'est ce qu'on appelle le kestrem el foussa. C'est une espèce de galette de pain qui est cuite à la poêle avec une sauce façon tapas, avec des piments, des oignons, une herbe sauvage qui s'appelle le yazour et qui pousse principalement dans le sud tunisien. Et ça, c'est ce qu'on sert en ce moment, c'est devenu très à la mode, c'est ce qu'on sert dans les petits restos qui viennent d'ouvrir. Parce que les gens savent que ça leur rappelle les souvenirs de leur enfance et qu'on ne peut pas trouver ça partout. Donc les grands chefs ici à Djerba se sont mis à préparer ça en entrée dans les restaurants. Ensuite, il y a un autre truc, c'est les tripes du mouton qu'on prépare pour l'Aïd.
Les tripes du mouton.
En fait, c'est un peu le boudin de chez nous.
Ouais.
À l'intérieur, on met du riz au persil avec des morceaux de mouton. Et ça s'appelle du rasban.
Et
donc,
bon
ça, c'est un plat qu'on fait principalement pour le jour de l'Aïd, parce que les femmes ont la flemme en dehors de ça, de devoir laver les intestins et les fourrer, etc. C'est très compliqué.
Ouais.
Ça prend du temps à faire.
Ouais.
Et puis, un autre plat qu'on aime beaucoup, c'est le couscous au poisson. Mmh. Il y a tous les maghrébins du monde qui se moquent de nous en disant « Mais c'est un blasphème, comment osez-vous mélanger du couscous avec du poisson ?»
C'est pas réglementaire, ça, un couscous au poisson.
Pardon ?
C'est pas réglementaire, ça, un couscous au poisson.
C'est pas réglementaire. C'est parce que vous ne l'avez pas goûté que vous parlez comme ça. Mais le couscous au poisson, c'est excellent. Il y a même du couscous au poulpe. Oh, et ça fait partie des meilleurs plats que j'ai mangés de toute ma vie. Et ce n'est pas parce que je suis tunisienne que je dis ça.
Ah ouais. Alors, moi, comme on vous a en ligne, il y a une question aussi que je voudrais vous poser. C'est la négociation dans les souks. Parce que quand on arrive de France, qu'on va dans un souk et qu'on commence à négocier, on a peur. Parce qu'on est partagé de plusieurs sentiments. À la fois, on a envie de jouer à négocier, puis en même temps, on se dit, je vais me faire avoir. Puis en même temps, on se dit, j'ose pas trop négocier parce que je veux pas non plus être l'étranger qui vient mettre le bazar.
Mais
comment faut faire ?
Parce que là-dessus, moi, je suis plus française que djerbienne. Ouais. Quand j'arrive ici, j'ai beaucoup de mal. Et c'est quand j'emmenais mon papa, paix à son âme, avec moi, il négociait tellement qu'à la fin, je le regardais en disant, mais papa, t'abuses, il faut quand même qu'il gagne un peu d'argent, le pauvre type. Il me dit, laisse-moi faire. Donc, il arrivait à négocier genre un dixième du prix qu'on m'avait donné à la base.
Un dixième
un dixième du prix.
Ce que vous dites là est très important. Ça veut dire que quand on commence à négocier dans un souk, on peut imaginer qu'on va payer 10 fois moins.
Oui, mais pas pour tout, il ne faut pas généraliser quand même.
Oui, pas pour tout, parfois. Pas pour tout. L'idéal, c'est d'aller avec des autochtones qui connaissent les prix et qui sont de confiance.
Ah oui. Moi, j'arrive péniblement à 10%.
Je sais que je me fais toujours arnaquer, que ce soit en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, je paye toujours plus que ce que je ne devrais. Mais après, on se dit que c'est aussi une manière de filer un coup de pouce à l'économie du pays.
Mais oui.
Je veux dire, on ne va pas chipoter pour 50 centimes d'euros, alors que pour nous, c'est peu et pour eux, c'est beaucoup.
Oui, et puis c'est une façon aussi de parler, de se rencontrer, de discuter, de rigoler. Mmh. Parce que c'est quand même une pièce de théâtre. C'est quand même très, très amusant. Moi, j'ai une petite technique qui vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que moi, je négocie toujours un objet que je ne veux pas. En fait, et puis après qu'on s'est bien acharné sur ce truc, je dis, mais en fait, et ce truc-là, là, alors là, le gars n'est pas du tout intéressé. Il fait, non, mais ça, c'est rien, ça coûte tant, ça. Ah bah non, finalement, c'est pas mal. Tiens, bah, je vais prendre celui-là.
Eh oui, vous croyez que vous l'avez au bon prix, le deuxième ?
Pas forcément, mais ça m'amuse. Ah oui, c'est-à-dire que oui, c'est un petit peu comme ça, on se dit, oh, allez, bon, on va pas recommencer tout à zéro pour cette petite babiole.
Ah, oui.
Puis en fait, c'était la petite babiole que je voulais au départ.
C'est pas mal. Les astuces de Nathalie Cloré.
Non, ça vaut rien sûrement, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Samia ?
C'est une technique que j'ai déjà vue chez certains amis.
Ah.
Et effectivement, ça peut fonctionner.
Ah.
Mais moi, j'arrive pas, en fait.
Il s'agit de détourner l'attention.
Quand je viens ici, je me la joue grand prince. Et puis, je donne toujours plus qu'il ne faudrait parce que je me dis, c'est une manière de les soutenir aussi.
Oui, voilà, c'est vrai que c'est ça partage. Hein.
Mais ça veut dire que si on ne négocie pas, on est vraiment à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on est ridicule aux yeux du vendeur.
Exactement. Bah, le vendeur se dit, ah là là, mais qu'est-ce que je l'ai arnaqué ? Mais qu'est-ce qu'il est bête ? Mais je vous rassure, c'est aussi ça pour les enfants d'immigrés. Hein.
Ah oui.
Parce que moi j'ai eu souvent des gens qui venaient vers moi avec un coup de terre roublard, genre ah là là, j'ai réussi à l'arnaquer, regarde, je lui ai pris 5 dinars de plus. Alors qu'en fait, c'est juste que j'avais ni l'envie ni la force d'aller me battre pour 5 dinars, ça fait quoi, 1,50 €? Allez, prends-les, t'es 1,50 € et me fais pas mal à la tête, c'est bon.
Ah oui.
Donc moi je raisonne plus comme ça en fait.
Mais alors ça veut dire qu'il faut toujours avoir beaucoup de temps parce qu'on n'a pas forcément le temps de passer une demi-heure à négocier chaque chose.
Exactement. Et le temps ici, c'est pas ça qui manque.
Alors, vous nous avez beaucoup...
France, on dit le temps, c'est de l'argent. Mais ici, non.
Vous nous avez beaucoup parlé de Djerba. Vous nous avez donné une autre image de Djerba. Parce qu'on a tous une image un peu de station pour les clubs de vacances, les hôtels, et plutôt en béton, et les grandes plages. Alors, quand on vous écoute, on est complètement ailleurs.
Oui, mais en fait, l'idéal, c'est vraiment de découvrir avec des autochtones. En fait, moi, je sais qu'après la vague d'attentats qu'il y avait eu, j'avais organisé une venue avec une association ici, et j'avais emmené des gens qui me suivent sur Internet pour découvrir l'intérieur des terres. Mmh. Et en fait, on était allé faire la cueillette des olives avec mon papa. Chacun, ensuite, on est allé dans l'huilerie pour voir comment est-ce qu'on fabriquait l'huile d'olive. Chacun est rentré chez lui avec une petite bouteille d'huile. Je les ai emmenés au musée des arts et des traditions. Je leur ai expliqué les traditions djerbiennes, comment fonctionnaient les mariages chez nous, etc. Et en fait, ça les avait émerveillés. Et cette agence de voyage disait, on ne peut pas connaître un pays tant qu'on ne l'a pas bu, chanté et dansé.
Ah, c'est une jolie formule.
On pourrait se faire inviter, Philippe, non ?
J'aime bien, on va essayer. J'aime bien votre formule. Merci beaucoup, Samia, de nous avoir fait découvrir votre Djerba, votre Tunisie. On pourra, je le rappelle, vous retrouver...
Merci beaucoup à vous.
Non, mais vous étiez super. On pourra vous retrouver très bientôt sur scène avec votre nouveau spectacle « Je suis une bouffonne », qui a déjà une date à Paris, le 12 septembre, au Jardin Sauvage. Merci Samia, au revoir.
C'est ça. Mais je vais vous dire au revoir à la façon tunisienne. Wallahi, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec vous et prenez soin de vous et attention au Covid. Aïe, abslema, abslema, monsieur, abslema, madame.
Slama.
Dans un tout petit instant, Nathalie Corré qui a épluché la presse tunisienne et les infos les plus croustillantes. À tout de suite sur Europe 1.
11h midi. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
C'est la seule au monde à être capable à éplucher les médias,
et danser
les
en même
sites
temps.
Internet et danser en même temps. Elle s'appelle Nathalie Corré, elle est unique et elle est avec nous.
Salam, salam, paix sur vous. Donc j'ai regardé un petit peu, bon évidemment les nouvelles n'étaient pas très bonnes, on l'a déjà dit.
Côté Covid.
Évidemment. Alors en revanche, j'ai cherché des petites choses insolites et j'ai trouvé quelque chose qui est original, en tout cas au Maghreb, c'est que les familles tunisiennes ne sont désormais plus obligées de se limiter au seul nom arabe pour nommer leur nouveau-né.
Ouais.
Figurez-vous, c'est une avancée majeure hein, vers la fin du diktat de l'état civil. Désormais les parents pourront choisir des prénoms issus de séries télé ou à consonance étrangère. Bienvenue au Kevin, au Gérard, au Jocelyne, au Ryan.
Qu'est-ce que vous avez contre
les Philippe,
Kevin?
Et pourquoi pas au Jean-Bernard?
Oui, ça sent une petite révolution.
Est-ce une avancée? Je vous le demande, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que pour un pays à 90% de musulmans, c'est une originalité donc, qui était notée dans plusieurs médias. Voilà, ça fait quand même, ça date de juillet 2020, mais voilà, on en reparle régulièrement parce qu'apparemment, ça fait rire beaucoup de gens. Autre chose, le tatouage fait des ravages.
Ah bon ?
Alors, bon. Avant, évidemment, les tatouages, c'était plutôt le fait des berbères, vous savez, avec une connotation quand même traditionnelle.
Ouais.
Eh bien, figurez-vous que les tatouages sont désormais très à la mode. Alors, dans les grandes villes, évidemment, à Tunis en particulier. Et à cause de quoi, me direz-vous ?
À cause de quoi ?
Oui, à cause de quoi ? Eh bien, figurez-vous, à cause de Aouled Moufida.
C'est qui ?
Aouled Moufida, c'est pas qui.
Oui, on pense, ça doit être un chanteur.
Ça veut dire les fils de Moufida, Aouled Moufida. Donc, les fils de Moufida, c'est une série télé qui a lieu chaque ramadan. Donc, on a déjà plusieurs saisons, évidemment. Et ils sont tous tatoués.
Ah.
Alors, du coup, ça a donné envie aux jeunes de se tatouer comme les fils de Moufida. Alors, comme je sais que vous ne regarderez peut-être pas ce programme, mais que vous brûlez d'envie que je vous pitche de quoi ça parle,
oui.
Les fils de Moufida. Donc, je vous raconte. Alors, Moufida est une femme tunisienne qui travaille dans le restaurant dont elle a hérité de son père et vit avec ses trois fils et son mari alcoolique. Elle tombe amoureuse de Chérif, un ami proche de son mari, et donne naissance à un enfant.
Ah.
Ah, vous voyez quand même, c'est...
Un enfant illégitime.
Eh bien oui, totalement adultère. Hein. Donc après 6 ans d'amour secret, il rompt et décide de quitter le pays pour aller travailler en France.
Qui rompt?
Chérif, l'ami proche du...
Bah
oui, l'amant.
L'amant rompt.
Voilà, ça y est, il a déjà rien compris. Bon, enfin, il quitte pour aller en France où il devient multimillionnaire. Bon, alors là, c'est là où la fiction prend le dessus. Voilà. 20 ans après son départ, il revient. Avec un cancer en phase terminale, bon, là, ça se gâte. Avec une espérance de vie donc estimée à 6 mois. Mais il veut savoir qui est son fils pour qu'il hérite de toute sa fortune. Et l'un des fils de Moufida apprend qu'il s'agit de son grand frère Badr, 2 fois champion de Tunisie de boxe anglaise.
Ah.
Je sens que vous allez regarder la saison 6,
mais oui,
non
c'est à coup, oui.
Il décide alors de lui dire, mais sa femme le convainc de se faire passer pour le fils de Chérif pour lui voler sa fortune après sa mort.
Oh là là là. Donc,
vous voyez un peu de quoi ça parle quand même. C'est comme tous les thèmes sont là.
Non, c'est une tension dramatique et épouvantable.
On dirait Dynastie en version tunisienne.
Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, résultat des courses, les tatouages sont à la mode. Ah mais à propos de Dynastie, vous me tendez la perche. Figurez-vous que le débat actuel qui n'en finit pas dans les médias et dans les familles, c'est la loi sur l'héritage. Car sous le président Habib Bourguiba, il y avait beaucoup de lois qui étaient un ensemble de lois progressistes qui favorisaient l'instauration de l'égalité entre les sexes et qui permettaient aux femmes d'obtenir plus facilement le divorce, interdisaient les mariages forcés et la polygamie évidemment. Et c'est grâce à ça que les Tunisiennes jouissent aujourd'hui du statut presque le plus avancé du monde arabe. Mais il y a un domaine où, alors là, c'est la cata, c'est la loi sur l'héritage. Ça, ça demeure quand même un gros problème, parce que la loi coranique impose que la femme hérite de la moitié de la part de l'homme. Mais là, et je pense que notre invitée Samia serait tout à fait d'accord avec nous, c'est que les temps changent. Dans beaucoup de foyers, c'est la femme qui travaille, qui gère tout. Les femmes sont des hommes à la maison, plutôt les hommes de la maison, quand elles ne travaillent pas. Enfin, il y a des débats enflammés en ce moment dans les familles sur justement ce sujet de l'héritage. Donc là, ça s'arrache les cheveux à domicile. Voilà.
Tiens. Crépage de chignon en perspective.
Oui, c'est ça, si je puis dire. Voilà, bon, moi je voulais faire un point Cannes.
Bah, mais
oui, le point Cannes, bah, vous savez qu'en ce moment, ça va être la fin du festival. Et il est à noter que le producteur dont on parle beaucoup en ce moment est un Tunisien qui s'appelle Saïd Ben Saïd, qui a produit beaucoup de films en ce moment à Cannes, dont le fameux Benedetta dont on parle beaucoup. Alors, aura-t-il une palme? En tout cas, il y a aussi la réalisatrice tunisienne Leïla Bouzid qui vient à la semaine de la critique avec Une histoire d'amour et de désir, qui sortira en France et en Tunisie. Bref, la Tunisie est très présente au festival comme chaque année. Et voilà, c'est une fierté pour les Tunisiens et ils ont bien raison. Parce que les films sont formidables.
Merci beaucoup Nathalie pour ce petit point sur les médias tunisiens. Dans un petit instant, Jean-Bernard et ses tuyaux secrets. Il ne les révèle qu'à nous, hein, je vous préviens.
Qu'est-ce que ça veut dire ces tuyaux secrets?
Vous allez le savoir dans quelques minutes Nathalie.
Mon Dieu.
Dans un instant, juste après un titre plein de poésie et de douceur, voici Boulevard désert, Emmène-moi. Ah, j'adore ça, c'est léger, c'est bon, ça vous emmène loin. C'était Boulevard désert, Emmène-moi sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et loin, loin, nous le resterons, grâce à Jean-Bernard, qui a tous les bons tuyaux pour profiter, pour aborder la Tunisie de la meilleure façon. Jean-Bernard, comment vous abordez ce pays? Par quoi on commence?
Par la capitale, Tunis,
figurez-vous. C'est le plus facile.
Bah oui, allez, on commence à Tunis et on va s'immerger dans la Médina, la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité quand même.
Et qui est magnifique. Et c'est marrant parce que quand on parle de la Tunisie, on parle rarement de Tunis.
Ah ben on a tort,
ouais.
Franchement. Et je vais essayer de vous convaincre, Philippe et Nathalie, parce que autour de cette Médina, il y a les souks.
Oui.
Voilà, les fameux souks de Tunis.
Bah, surtout que maintenant, on a appris à négocier.
Voilà, maintenant qu'on sait tout faire, on va aller faire un tour. On va se perdre dans les ruelles intimes de cette médina et de ces souks qui sont rassemblés autour de la grande mosquée, donc on ne peut pas les louper. Et moi, ce que j'adore, c'est que chaque souk a son ambiance, son odeur, ses couleurs, ses produits. Chaque rue de ces souks, les rues sont souvent couvertes, regroupe des artisans qui ont le même métier. Donc il y a une spécialisation, une concentration des savoir-faire. Donc vous n'avez pas de risque de vous perdre de type de produit. Vous savez combien il y avait d'artisans dans les souks de Tunis au 19e siècle? Rien que pour vous donner une idée un petit peu de l'importance au niveau commercial, il y avait 5000 boutiques et 9000 artisans.
9000
artisans et 5000
dans
boutiques.
Dans un même endroit.
Vous voyez un petit peu cet immense hypermarché que ça pouvait représenter. Alors, en flânant d'un souk à l'autre, on découvre des corps de métiers très différents, je l'ai dit, avec des ateliers, des échoppes qui sont restés dans leur jus. Quelques exemples, les tisserands, les parfumeurs, les tanneurs, les fabricants de chéchia, et puis même pour vous peut-être aussi, Philippe, ça peut vous intéresser, les fabricants de djellaba, pour revenir chez soi et se balader un petit peu.
Mais la chéchia, il faut quand même dire que c'est un chapeau, parce
c'est
que tout le monde ne sait pas.
C'est pas une chèche,
c'est un chapeau en feutre, et en laine feutrée.
Et les fabricants de babouches aussi, pour vous, éventuellement, des babouches,
oui,
ces fameux chaussons de cuir qu'on aime
bien. Il vous met vous en babouche et moi en djellaba, mais je ne sais pas pourquoi.
Moi, je préférais qu'il m'aurait donné une tenue toute en broderie dorée, j'aurais préféré.
Mais oui.
Je vous achète ça la prochaine fois, Nathalie, c'est promis. Alors, mon préféré, c'est le souk El Atarine. C'est le souk des parfumeurs, parce qu'il y a vraiment des odeurs, absolument des fragrances inimaginables, des subtiles essences. On craque à coup sûr. Il y a des comptoirs en bois. Alors, derrière le comptoir, il y a le vendeur. Il vous fait comparer les fragrances, le rose, l'orange, le jasmin, l'ambre, le musc. On se fait expliquer tout ça. Et puis, si on veut, on demande au parfumeur de nous concocter un mélange sur mesure. Et puis après,
ah ouais,
tout
on peut faire du parfum sur mesure.
Sur mesure. Donc, ça, c'est génial, bien sûr, d'avoir
puis
vraiment.
Et après, vous l'appelez Chanel numéro 24.
Et puis bien sûr, pour terminer sa petite séquence shopping dans le souk, on se fait une petite pause hein, quand même pour boire un kawa à la fleur d'oranger ou alors une citronnade aux amandes. Un vrai art de vivre, Nathalie. Ça,
oui,
vous avez
dû pratiquer. Un arroi.
Ça fait envie.
Non mais je peux juste dire un truc, c'est que vraiment les souks, c'est pas du tout que pour les touristes, vraiment loin de là.
Non,
en plus, en ce moment, comme la Tunisie est vraiment en plein changement, il y a beaucoup de designers, beaucoup de stylistes qui vont s'inspirer des costumes traditionnels comme l'avait fait à une époque Hazdine Alaïa, quand même, qui avait fait là une robe de Lady Gaga en s'inspirant de justement de ce qu'il avait trouvé dans les souks de son propre pays.
C'est une immersion incontournable, il faut le faire.
Alors, pas très loin de Tunis, vraiment juste à côté, c'est 15-20
kilomètres. Ouais, une vingtaine
de kilomètres. Il y a là la petite pépite, il y a Sidi Boussaïd, que j'aime beaucoup.
Ah bah moi aussi, on a la même passion, Philippe, évidemment, Sidi Boussaïd, superbe petit village. Et ça vous plaît aussi, je sais pourquoi, parce qu'on s'y rend en TGM.
Ah oui,
vous nous expliquer ce que c'est que ce TGM, Philippe.
Bah le TGM, c'est une sorte de petit train qui est mi-tram.
Ouais, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un jouet.
Et qui a une histoire assez étonnante. C'était le bey de Tunis autrefois, hein, c'est un peu le roi de Tunis si on veut, qui avait voulu ce petit train. Il considérait ça un petit peu comme un jouet pour aller dans ses différents palais, au Bardo, à la Goulette, à la Marsa, qui était aux alentours de Tunis. Et puis, la ligne est restée et c'est devenu un transport populaire.
C'est génial et toutes les gares sont très mignonnes en plus.
Voilà. Et donc on descend à la gare de Sidi Boussaïd, on descend ici et qu'est-ce qu'on voit ? Une vue splendide sur la Méditerranée et le golfe de Tunis, parce que Sidi Boussaïd est sur une falaise, un village perché. Donc le plaisir, c'est de déambuler dans les ruelles. Il y a un incroyable mélange de couleurs. Vous imaginez les maisons avec des façades qui sont blanchies à la chaux, dans un blanc immaculé, éclatant. Et les portes et les persiennes, elles, sont d'un bleu profond, comme les moucharabiais d'ailleurs. Les moucharabiais, c'est les balcons qui sont entourés d'une cage en bois, ce qui permet de voir sans être vu. Ils sont peints en bleu, donc vous avez des couleurs bleues, blanches, et les bougainvillées qui apportent une petite tonalité magenta. Vous imaginez un petit peu. Donc si vous aimez faire des belles photos, vous serez heureux là-bas. Puis après, la balade à Sidi Boussaïd, qu'est-ce qu'on fait, Philippe ? Là aussi, je sais que vous l'avez pratiqué, on en a parlé. Café des délices, boire un thé à la menthe.
Avec des pignons.
Avec des pignons.
Et vous êtes sûr que je vais trouver Patrick Bruel installé avec un thé à la menthe, hein, vous me le promettez.
Mais oui, et devant une vue magnifique. Ouais. La vue est très belle.
C'est sublime, c'est un incontournable.
Ça donne sur une grande baie de Tunis. Ouais. Là, c'est
un
très
moment
beau
à partager, ça.
Alors, il y a une facette balnéaire, évidemment, en Tunisie, parce qu'on a beaucoup parlé de Djerba tout à l'heure. Mais il n'y a pas que Djerba.
Ben justement, on est tous obsédés par Djerba, parce que c'est un petit peu la principale attraction balnéaire de ce pays. Mais en fait, la côte tunisienne, et Nathalie, je sais que vous la connaissez bien, parce que elle n'a rien à envier aux côtes françaises. 1250 km, donc vous imaginez un petit peu les plages qu'on peut trouver. Et ben moi, j'aime bien Tabarka. Une superbe station balnéaire à taille humaine. Il y a une dizaine d'hôtels seulement. C'est à la différence d'Amamet où il y a beaucoup plus d'hôtels clubs. Là, on est vraiment dans une physionomie qui est assez réduite. C'est entre mer et montagne. Il y a des plages de sable blanc, des éperons rocheux, des forêts de pins, des chênes-lièges. Le petit fort génois qui va bien juste au-dessus de la baie de Tabarka, perché sur une colline qui lui donne un certain cachet. Moi, j'adore ça. Puis un petit air de Corse aussi, extérieur pays. On ne sait pas trop où on est, mais on est à Tabarka.
On est à la frontière algérienne.
Oui, on est à la frontière algérienne, exactement.
C'est votre préféré aussi, Nathalie ?
Moi, le Tabarka, j'adore. Et puis, il y a un magnifique festival.
Eh oui,
croise
le
les doigts pour qu'il reprenne un jour. C'est le festival de jazz en extérieur qui est sublime. C'est vraiment un coin magnifique. Tabarka, c'est très... Effectivement, ça commence à se développer, mais c'est vraiment un endroit très, très beau.
Et Philippe, vous savez qu'était mon premier contact avec Tabarka ? J'y suis pas allé pour les hôtels et la plage, en fait. J'y suis allé pour le Grand Bleu, pour voir ce qu'il y a sous l'eau à Tabarka. Parce que Tabarka, c'est la capitale du corail rouge. Il y a une longue tradition depuis des siècles de travailler, de récolter le corail rouge, donc sous l'eau, et d'en faire des bijoux, un artisanat lié aux bijoux. On trouve toujours quelques bijouteries à Tabarka. Et quand on plonge à Tabarka, on peut voir, il faut aller assez profond parce qu'il y en a de moins en moins. Mais ce corail rouge, c'est vraiment la grande spécialité sous-marine de cette station balnéaire.
Oui, parce que c'est pas l'endroit le plus réputé pour la plongée en Méditerranée.
Non,
quand même,
en revanche, pour le corail rouge, on voit vraiment c'est vraiment superbe.
J'ai une question plongée parce que je sais que c'est un grand plongeur, Jean-Bernard, mais je croyais que quand on sort, justement, il fallait pas toucher les coraux parce que quand on les sort, ils sont blancs.
Alors, pas le corail rouge, justement. Lui, c'est cette spécificité-là. Il garde sa couleur, il garde sa tonalité.
Ah oui, génial.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je préfère le désert. Je préfère le sud.
Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas poire ou fromage.
C'est les deux, c'est Philippe.
Le sud tunisien, là, quand on sent qu'on approche du désert comme ça. Et puis, il y a ce lac salé, là, le Chott El Djerid qui arrive avec ses... Vous avez l'impression que c'est la banquise quand il est asséché, parce qu'il a laissé du du sel sur le sol et tout est blanc à l'infini. C'est très très beau, plus les mirages qui existent
mais oui,
vraiment.
Mais quand on roule, oui, ça, mais
est-ce que vous savez que justement, c'est là, dans ce secteur de Tozeur, dans le Chott-Algérite, qu'on a tourné les scènes de Star Wars,
oui,
près de Matmatin. Parce que le sol est percé de cratères, c'était en fait des habitations il y a très longtemps. Les habitants vivaient dans ces chambres souterraines et c'est peut-être dans ce coin-là que vous allez retrouver toutes les scènes où ont été tournées. Vous y croiserez peut-être les fantômes de Dark Vador, de Luke Skywalker, de R2-D2. Il y a même des agences à Tozeur qui emmènent les touristes visiter les principaux lieux de tournage de Star Wars.
Donc vous m'avez promis que j'allais rencontrer Patrick Bruel et là vous me promettez que j'allais rencontrer Luke Skywalker.
Oui, vous verrez, ouais.
C'est ça, et d'accord.
En fait, vous êtes la princesse Leila, Nathalie.
Bien sûr.
Merci beaucoup les amis de nous avoir permis de voyager en Tunisie. On va se retrouver lundi pour une nouvelle semaine de voyage, d'évasion. On va partir très très loin. Nous allons partir, c'est aussi un endroit incroyable, nous allons partir en Polynésie. Rien que le nom, déjà vous êtes loin. La question la plus importante maintenant, c'est qu'est-ce qu'on mange ce midi? Et c'est là qu'apparaît Olivier Pouls, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour les voyageurs. Ben oui, c'est la question cruciale. Hein. Alors nous allons déguster aujourd'hui un petit fruit qui malheureusement cette année n'est pas très abondant parce que le gel a fait beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas une raison pour s'en priver. Je vous invite à croquer des cerises.
Ah oui, c'est bien.
Je ne sais pas si vous êtes bon au craché de noyau.
Je ne me suis jamais vraiment entraîné. Je ne peux pas vous donner de performance.
Non, écoutez, restez avec nous parce que des cerises, on va en avoir dans le studio. La cerise du Ventoux s'invite dans le marché de midi. Une cerise que nous aurons aussi le plaisir de cuisiner en compagnie d'un très grand chef. Voilà pour le menu du jour. Philippe, vous êtes chez vous. On a un petit rond de serviette pour vous.
Merci Olivier. Bonne journée à tous. Profitez bien du week-end sur Europe 1. Et surtout, n'oubliez pas de rêver.